chemins de traverse avec Pascal Laurière. Les chemins de traverse, votre rendez-vous avec notre pays, le Lot. Son histoire, ses hommes, ses chemins, ses traditions, ses légendes et ses sites. Le Lot, avec plus de 400 monuments et sites protégés, possède un patrimoine très riche et varié. Patrimoine s'échelonnant de l'ère des dinosaures et autres animaux d'une autre époque jusqu'à nos jours. Bonjour et bienvenue dans ce chemin de traverse à la découverte d'une des plus anciennes constructions du Lot, l'aqueduc gallo-romain de Divona. Depuis notre précédent rendez-vous, nous sommes sur les lieux des premiers vestiges de l'aqueduc de Cahors dans la vallée du Vers. Ce qui est un peu frustrant, il faut le reconnaître, c'est que ces vestiges sont recouverts de terre. Didier Rigal, archéologue, nous donne les raisons de cet enfouissement.
Eh oui, c'est bien dommage.
Vous avez tout recouvert ?
Oui, voilà. Pourquoi recouvrir ? Ah, pourquoi ? Pour le protéger, tout simplement. Parce qu'à 3 ans, malheureusement, ça s'était altéré de façon catastrophique. Le problème, c'est que on a affaire à des maçonneries qui sont prévues pour être en contact avec l'eau. Tout ce qui est fait à mortier de tuileau, le mortier de tuileau, c'est du mortier de chaux dans lequel on rajoute des morceaux de briques. Ça fait un mortier hydraulique qui a la particularité de durcir au contact de l'eau. Donc tant que vous y mettez de l'eau, tout va bien. Par contre, avec le comblement de la vallée, l'apport des éboulis de pente du mur Sins, l'eau avait tendance à noyer totalement le site, y compris des maçonneries qui n'ont jamais été prévues pour être en contact avec l'eau. Donc en 3 ans, on a vu les mortiers qui commençaient à partir en sucette et donc là, il était urgentissime de protéger. Donc il n'est pas détruit, il n'a pas disparu, il a été protégé. Recouvert en emplaisance, donc évidemment on n'a pas fait ça n'importe comment. Donc si un jour il y a la volonté, les moyens financiers et le savoir-faire pour restaurer tout ça, l'accord du propriétaire aussi, mais de rien, parce qu'on est chez quelqu'un là, hein, on est partout chez quelqu'un quoi. Hein. Si toutes ces contraintes sont réunies, là, en moins d'une demi-journée, je me fais fort de redégager exactement comme c'est. On sait exactement au centimètre près où se trouve chaque pierre et à quelle profondeur il faut creuser. Donc. Mais il faudra que ces volontés soient mises en place.
Pour l'instant, rien n'est prévu pour la restauration des vestiges enterrés. Mais je vous assure, rien que d'être sur les lieux, dans cette nature préservée, avec les vestiges sous nos pieds, est déjà fort en émotion et vaut la balade. Reparlons chiffres avec le débit de l'aqueduc.
Le débit de l'aqueduc, vous allez voir que c'est un conduit en fait, qui fait 1,70 m de hauteur. Mais qui est assez grand pour qu'on puisse s'y balader et procéder à l'entretien. Par contre, la partie anneau, c'est quelque chose qui est beaucoup plus réduit, ce qu'on appelle le spécus. Ça fait 20 cm de largeur à la base, 50 cm de hauteur et 80 cm au maximum à la ligne d'eau. Ça fait 1/4 m² de section mouillée. 1/4 m² de section mouillée avec 1,14 m de pente kilomètre, ça fait grosso modo 11 mm3 d'eau par jour à Cahors. 11 mm3, c'est pratiquement 3 fois le volume d'eau que l'on consomme à Cahors actuellement, avec une population qui est au moins 4 fois plus importante qu'à l'époque romaine. Donc ça veut dire qu'il faut imaginer des fontaines avec de l'eau qui jaillissait en permanence, qui s'échappait pas, qu'en s'échappant, elle allait laver les rues, elle allait laver les égouts, et donc c'était l'entretien de la ville finalement. Donc ça donne bien l'image d'une ville méditerranéenne où l'eau est capitale. Autrement dit, une ville de cité sans aqueduc, c'est pas un chef de cité. C'est un faubourg, quoi. C'est une bourgade, c'est un village, c'est pas une ville. Une des nombreuses particularités de cet aqueduc, c'est d'avoir cherché à réduire au maximum l'importance des ouvrages d'art. Ça veut dire que chaque fois qu'ils rencontrent un vallon affluent, ils vont le remonter, le contourner en partie, ou en totalité, si c'est possible, jusqu'au Talvec pour éviter de construire un pont. Ou alors, à défaut, ils vont rechercher le premier goulet, le premier retrécissement de la vallée. Et systématiquement, on ne connaissait aucun ouvrage d'art avant de commencer nos travaux. Et ensuite, très rapidement, on remontait la vallée, on recherchait l'endroit le plus étroit, et boum, c'était là que se trouvait l'ouvrage d'art. Donc, ils ont construit des kilomètres d'aqueduc en plus, en contournant ces vallées. Donc, à chaque fois, on a perdu la pente. Donc, effectivement, il y avait la volonté de réduire au maximum les ouvrages d'art. Ils avaient bien raison, parce qu'ils se sont tous cassés la figure au moins une fois. Alors que les parties qui étaient taillées soit dans le rocher, évidemment ça ne craignait pas grand-chose, ou les parties qui étaient réalisées en tranchée, on faisait un trou dans le sol, on bâtissait deux murs, on faisait une voûte dessus, comme on va le voir tout à l'heure. Ça, si on veille à ce que les arbres ne poussent pas dessus, logiquement, c'est à vie, quoi. Voilà. Alors que les ponts, effectivement... Et en plus, ça coûtait cher à construire. Et ça monopolisait un nombre d'ouvriers incroyable. Quand vous faites une tranchée dans le rocher, il y a 2-3 personnes qui travaillent de chaque côté. des gens qui évacuent les débits derrière eux, vous nous plaisez 7-8 personnes, c'est ridicule. Vous avez l'impression d'un truc qui est, paraît fou, d'attaquer un rocher à la pioche, ça paraît complètement dingue. Mais c'est rien, ça coûte rien. Et en plus, c'est une main d'œuvre qui n'est pas formée. Il y a simplement le forgeron qui assiste ces gens-là, qui reforge les outils régulièrement, qui a un semblant de formation. Après, pour les autres, vous apprenez vite à lire au rocher quand vous l'attaquez à la pioche. Hein. Vous réfléchissez assez vite l'endroit où il faut taper, comment il faut taper pour éviter de venir complètement fou. Et alors que quand vous bâtissez un pont, dès l'instant que vous mettez en œuvre la maçonnerie, ici par exemple, vous allez chercher le sable, le gravier ou l'autre. Vous vous rendez compte? Vous avez dû construire un chemin pour amener tout ça, trimballer le sable et les chariots. Ça fait du bazar quand même. Hein. Et il faut un ingénieur, il faut un architecte pour construire tout ça, des gens qu'il faut payer. Donc il y a une main-d'œuvre dingue, quoi. Et ça coûte extrêmement cher. Alors que traiter le rocher, c'est ce qui nous paraît le plus monstrueux, mais qui était le plus économique de très loin à l'époque romaine.
L'aqueduc de Cahors épouse les contours des vallées du Vers et du Lot. La conduite était tour à tour entaillée dans les flancs des falaises, aménagée en conduits souterrains ou portée par des ponts maçonnés.
Il ne reste rien des ponts.
Si, vous allez voir le mur du diable, c'est un mur porteur avec une arcade, c'est le plus gros morceau. Autrement, les autres ponts, malheureusement, ils se trouvent sous nos pieds. Le problème, c'est qu'on a bâti, tous ces ponts ont été bâtis aux endroits les plus resserrés des vallées. Oui. Comme ils n'avaient pas à faire de maçonnerie, ils ont fait des arcades extrêmement réduites. Donc, non content de se trouver à l'endroit le plus resserré de la vallée, on a fait en plus un barrage. Ces ponts ont formé barrage à toute la sédimentation qui se baladait. Et donc, du coup, ils sont retrouvés ensevelis très rapidement par l'érosion. Et là, les vestiges de ces ponts, on les trouve dans des super états de conservation parce qu'il faut aller les chercher parfois jusqu'à 6 mètres de profondeur. Il y a deux, Vallée de la Rose et Route de Course, on était à 6 mètres de profondeur, on n'a pas encore la fondation. Ils ont été tellement profonds que, bon, sauf à terrasser toute la vallée, on ne s'en sortait pas. Mais du coup, ça a fait effet de barrage, ils sont complètement ensevelis par la sédimentation. Et quand vous pensez que jusqu'en 1880, toutes ces pentes étaient plantées en vigne, que les rangs de vignes étaient en sens de la pente, vous imaginez, chaque fois qu'il pleuvait, vous aviez des... ça ravinait sérieusement, hein, oui. Et donc, ils sont pratiquement tous relativement bien conservés, mais extrêmement difficiles d'accès, quoi.
Du point du premier captage où nous étions jusqu'à présent, nous partons maintenant à travers champs en longeant la falaise vers le premier vestige visible de l'aqueduc.
Ce sont les tuiles qu'on a trouvées dans le bassin. Quand on a étudié ces bassins, on a retrouvé d'assez nombreux fragments de tuiles et de briques. Alors il y a des fragments de briques qui correspondent au bâti du puits par exemple. Et puis, on a retrouvé plusieurs milliers de tessons de tégulés. Donc, les tégulés, ce sont des tuiles romaines qui font à peu près 35 cm de largeur, avec un rebord de chaque côté, environ 40 cm de longueur, qu'on dispose comme ça sur le toit. Et comme on les met côte à côte, on assure l'étanchéité avec une tuile canal qu'on bosse dessus. Toutes ces tuiles ont été ramassées, ont été lavées, ce qu'on retrouve souvent la signature des tuiliers là-dessus. Et sur l'aqueduc, c'est fabuleux parce qu'on a 12 tuiliers différents qui ont apposé leur signature sur ces tuiles. Et ces tuiliers, il y en a 3 qui viennent de Cajar, 2 qui viennent de Saint-Denis-Catus, et les autres, on ne sait pas, il y en a un qui peut-être de Cagnac. Donc ce qui est fabuleux, c'est qu'on retrouve à chaque fois un ou deux tuiliers sur les différents sites de découverte de tuiles sur l'aqueduc. Ça veut dire qu'on a passé des commandes spécifiques pour les tuiles d'ici, on a passé commande à 2 ateliers. Pour le mur du diable que vous verrez tout à l'heure, c'est encore 2 ateliers différents. Donc vous voyez qu'il y avait des marchés négociés, et on se rend compte aussi que sur les 12 ponts aqueducs que l'on a étudiés, qui devraient en théorie tous être copie conforme, hein, des grands, des petits, mais construits de la même façon, on se rend compte qu'ils sont tous construits différemment, avec des matériaux différents. Certains ont des contreforts, d'autres pas. On trouve tout l'échantillon du savoir-faire connu à l'époque romaine. Donc tout ça prouve qu'à chaque fois, il y a eu une étude de tracé, évidemment, et ensuite, dans le détail, on a manifestement réalisé des marchés où on a passé commande à des tuiliers de Cajar pour ce point ici, des tuiliers de Saint-Denis-Catus pour le point qu'on verra tout à l'heure, tout ça toujours à l'avenant. Donc toutes les tuiles qu'on a trouvées ici ont été lavées, pesées, c'est ce qui nous permet de restituer le nombre de tuiles qui étaient présentes, et on a l'équivalent d'une toiture de 12 mètres carrés, ce qui correspond exactement au deuxième carré que vous avez vu sur le bassin. Donc ça veut dire que ce bassin évidemment a été couvert par une charpente, parce qu'on a aussi retrouvé quelques clous, et ça, il faut imaginer quelque chose qui devait ressembler un petit peu à fond polémique, qui se trouve juste à côté. Donc quelque chose qui est légèrement surcreusé. Le sol romain ici, il n'a pas trop évolué, parce qu'effectivement il y a des apports qui viennent du mur Cens, mais de temps en temps ça déborde, donc ça s'en va. Donc on a le sol sol à 10 cm près, apparemment, on est vraiment au même niveau qu'à l'époque romaine. Donc il faut imaginer ces bassins qui étaient très légèrement surcreusés, protégés d'une toiture, donc des sites qui étaient accessibles, visibles par tous.
Vous avez la technique romaine ou gauloise là ?
Ah, romaine, madame. Gaulois, ça ne savait pas faire des tuiles. Ça ne savait rien faire, c'est fichu gaulois. Les gaulois ne connaissaient, ne taillaient pas la pierre, ne savaient pas faire de mortier, ne savaient pas faire des tuiles. Ce sont les Romains qui ont apporté tout ça. Les Romains eux-mêmes l'ont parfois emprunté à d'autres. Hein. Les Romains, c'était d'excellents diffuseurs. Ils n'ont pas inventé grand-chose, mais ils avaient le génie pour diffuser ça en grand. C'est eux qui ont appris aux Gaulois, qui leur ont expliqué qu'il fallait déménager des cabanes en planches qu'ils habitaient à Mursins pour s'installer à Cahors. Parce que Cahors est une ville ouverte, alors que l'habitude des Gaulois, généralement, c'était d'habiter sur des endroits qui étaient protégés par une fortification, par un rempart, par des falaises. Mais on trouve aussi des fermes gauloises dans la campagne. Hein. Tous les Gaulois n'habitaient pas, n'étaient pas cachés derrière les remparts du Mursins. Mais ils habitaient naturellement des sites naturellement protégés, parce qu'ils étaient souvent en bagarre entre eux. Et à l'époque romaine, tout ça c'est fini. Tout le monde déserte ces lieux défensifs et on va s'installer dans des villes ouvertes comme Cahors. Et Cahors, c'est joli parce qu'il y a le cours d'eau qui passe autour et en même temps, l'Aude, c'est une voie de communication importante, plus importante que les voies routières. Et si on a trimballé des tuiles comme ça depuis Cajar, une tuile comme ça, c'est en moyenne 11,7 kg. 11,7 kg pour ça de toiture. Et vous imaginez que si on avait dû les transporter à cheval, enfin, un chariot, je veux dire, ça aurait été. C'était possible, quoi. Ça ne valait pas la chandelle. Par contre, une fois que vous avez chargé sur le Lot, jusqu'à Vert, ça roule tout seul.
En Occident, les Romains furent les grands constructeurs d'aqueducs. Ils captaient l'eau dans des sources parfois très éloignées de la ville, telle l'aqueduc de Lyon, dont le captage est à plus de 70 km. L'eau était acheminée au travers d'un réseau de canalisations étanches et d'ouvrages d'art, tels le pont du Gard pour l'aqueduc de Nîmes. C'est un de ces aqueducs, avec celui de Cahors, que nous découvrons dans ce chemin de traverse, en compagnie de Didier Rigal, archéologue.
On va se passer un petit peu, et là vous allez voir l'aqueduc, en vrai. Approchez-vous.
Il existe, ce n'est pas une légende, ni un mythe.
Il existe vraiment. C'est pas qu'une affabulation. Alors là, on a la chance d'avoir retrouvé une section de l'aqueduc qui est en parfait état de conservation sur 80 mètres de long. On peut faire 40 mètres de chaque côté, grosso modo. Et ensuite, c'est bouché parce qu'évidemment, chaque fois qu'il y a un trou dans la voûte, ça se remplit, quoi, forcément. Et c'est la plus grande section connue d'aqueduc. Et donc, vous voyez, à la base, la partie qui est enchéifiée, et ensuite, la voûte qui surmonte le tout et qui permet de protéger l'eau. On capte de l'eau propre, il faut l'amener propre jusqu'à Cahors.
La voûte, de temps à autre, s'abîme.
Oui. Alors là, c'est nous qui l'avons découvert en faisant des sondages, parce qu'on ne savait pas du tout, vous voyez, rien ne matérialisait la présence de l'aqueduc ici, forcément, quoi. Hein. Et d'autant que là, il y a un chemin ancien qui monte à Mursins, donc il y a des remblais importants qui avaient été posés dessus. Et autrement, chaque fois il suffit qu'une voûte, qu'un claveau se casse la figure, ça tient tant qu'il y a cohésion, aussi loin qu'une pierre, tout descend.
L'aqueduc, on a idée du temps qu'ils ont passé à le construire?
Nous n'avons aucune information sur la durée de construction parce qu'on ignore le nombre de gens qui ont participé à ces travaux et on ignore également leur statut. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est faire l'archéologie expérimentale où on va déterminer le temps nécessaire pour un ouvrier pour construire un mètre d'aqueduc en tranchée ou en rocher. Mais là, on n'a aucune base de réflexion.
On sait à Cahors à quel moment ça a commencé à fonctionner?
Non, on a des indices pour l'instant sur l'époque de construction. On a des indices qui vont de moins 10 à plus 15 après Jésus-Christ. Donc on imagine que c'est plus 15 ou plus tôt. Là pour ça, il faudrait trouver une inscription. Là c'est un jour, on avait une inscription, une dédicace, comme ça existe souvent, mais malheureusement pas beaucoup à Cahors. Si on avait le nom du responsable du chantier, qu'on fait toujours référence à la date, là on aurait quelque chose d'absolument extraordinaire pour une datation.
C'est sur ces paroles de notre guide Didier Rigal pour cette découverte de l'aqueduc de Cahors que nous refermons ce chemin de traverse. Pour tout commentaire ou information sur les chemins de traverse, une adresse à votre disposition, instant.lotois@orange.fr.